Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. D'accord, merci. Soyez les bienvenus pour cette dernière conférence de notre naissance, non pas dernière avant la fin du monde, mais en tout cas la dernière de l'année. 2012 d'ailleurs. D'habitude, je présente le conférencier. Est-ce que je peux présenter notre conférencier de ce soir, Jacques Dabreteau? Je crois que nous sommes très nombreux à le connaître ici au sein de cette assemblée, puisque faut-il le rappeler, Jacques a été durant bien des années le directeur de notre naissance, plus de 20 ans.
20 ans, 20 ans.
Et notre naissance ne serait certainement pas. Nous ne serions certainement pas là ce soir dans le cadre de notre naissance si Jacques n'avait pas été présent. Avant. Ce soir, nous avons proposé également à Jacques donc, d'intervenir ce soir, un petit peu avant les fêtes de fin d'année, sur le sujet des orgues. Il nous semblait que ça pouvait être de saison. Et si nous vous proposons cette conférence ce soir sur les orgues, c'est justement parce que, Jacques, tu mènes l'étude, les chantiers de restauration, de ce patrimoine, tu y contribues, ouais. De ce patrimoine qui est peu connu et tu nous proposais effectivement de nous faire connaître ce pape des instruments, puisque c'est une expression pour présenter les
orgues. Franz Liszt, c'est Franz Liszt qui dit
voilà,
ça.
Mais je te laisserai nous en parler plus précisément. Et c'est vrai que c'est un patrimoine qui fait partie de monuments importants à Nantes comme ailleurs, hein, les églises, la cathédrale, et j'avoue que pour ma part, il me tarde de découvrir tout ce que tu vas nous présenter sur les orgues, donc je ne serai pas plus long. Merci encore de nous offrir cette conférence ce soir.
Attendez, avant d'applaudir, voici si vous êtes salués. Donc, c'est véritablement un challenge quand Dominique Palissel, le secrétaire général, m'a demandé de faire une conférence sur les orgues. Je me suis dit oui, je lui ai dit un peu oui rapidement, mais je parle sous couvert de Gaby Niel qui est présent dans cette salle, mon père qui saurait certainement parler mieux que moi, parce que le souci pour moi, c'est que je ne suis pas organiste ni musicien. Donc l'approche que vous aurez ce soir, c'est pas une approche d'un musicien ou d'un organiste, c'est l'approche d'un technicien, hein, bien modestement, qui s'est trouvé en face d'une nouvelle mission il y a maintenant 2 ans au sein de la ville de Nantes pour engager des programmes de restauration ou de réparation des instruments qui appartiennent à la commune. Je dirais que je fais cette conférence je ne pourrais pas la faire sans, les acteurs que sont d'abord les organistes et les compositeurs, les facteurs d'orgue, j'en reparlerai tout à l'heure, les techniciens à conseil pour les orgues historiques, avec qui j'entretiens des relations, en particulier un qui est Roland Galtier, et puis tous les gens passionnés, hein, les amis de l'orgue, que ce soit au niveau de Nantes et de la Loire-Atlantique, la commission de diocésaine des orgues qui est très, très présente à Nantes, et puis la chance que j'ai, c'est que la ville de Nantes, on arrive à trouver un budget pour faire des travaux. Je crois que c'est important. Et je crois que, en fait, depuis, je m'en occupe depuis 2 ans, la question de l'orgue a un peu avancé, en tout cas pour ce qui concerne la ville. Alors, je vais commencer par cette conférence par citer des petits extraits d'ouvrages que j'ai lus sur les orgues. Arthur Rimbaud en premier, il disait sur les orgues: drap noir et orgue, éclair et tonnerre, montée et roulée. Eau et tristesse, montez et relevez les déluges. Ça vous montre un peu la tonalité de ce que c'est qu'un orgue. Franz Liszt, hein, qui disait: l'orgue est un piédestal sur lequel l'âme se pose pour s'élancer dans les espaces, parcourir l'infini qui sépare le ciel et la terre. Victor Hugo disait: l'orgue majestueux se taisait gravement dans la nef solitaire. L'orgue, le seul concert, le seul gémissement qui mêle aux cieux la terre. Et Jean Guillou, que je citerai également, l'orgue est chair, et cette chair vivra pour autant qu'on l'aura considéré comme tel et qu'on leur saura découvrir la substance. Alors, comment j'ai pu aborder l'orgue? C'est bien sûr à travers ces rencontres. J'ai oublié aussi Pierre Le Gall, qui est vraiment le spécialiste de Louis de Bière, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord essayé de me documenter auprès des professionnels, et puis, à travers des ouvrages, j'ai commencé par lire, je vous le conseille, on le trouve à la médiathèque, parce qu'il y a peu d'ouvrages à la médiathèque, l'orgue de Norbert Dufourcq, hein, qui est un ouvrage indispensable pour ceux qui veulent connaître l'orgue. Je vous sors de deux ouvrages également, Louis de Bière, qui est le fameux fighter d'orgue nantais, hein, dont on reparlera lors de la conférence, et puis Le monde mystérieux de l'orgue, qui est un bel ouvrage aussi, parce que je crois c'est surtout la région Alsace qui a vraiment une culture de l'orgue importante, hein, donc l'orgue, comme le disait notre père Félix Moreau, c'est d'abord un instrument liturgique avant tout, hein, ce que disait aussi Norbert Dufourcq. À travers plus de 10 siècles d'histoire, la destination de l'orgue reste immuable. Pour soutenir un orgue, l'instrument avant est apparu comme nécessaire. Le tuyau assure la continuité du son, comme le souffle de l'homme assure celle de sa voix. De même que l'être humain, l'orgue possède des poumons, il respire comme nous, et une alimentation suffisante en air est un bon garant de son bon état de marche. C'est vrai que, je reviendrai, mais nous avons quelques instruments qui posent des problèmes d'entretien et dont les soufflets, malheureusement, ont des peaux en mauvais état. Il devient asthmatique à ce moment-là et ça se sent dans le son. L'orgue est un créateur d'ambiance, tant par sa puissance que par la diversité de ses sons. C'est un véritable orchestre. Dans tous les cas que j'ai rencontrés aussi, je dois ajouter que les architectes qui ont construit les édifices cultuels n'avaient point prévu d'y installer les orgues. C'est pour ça que, ben, moi, à travers les connaissances que j'ai, peut-être sur des églises plus contemporaines et sur des actes plus contemporains, les orgues ont été souvent rajoutés dans les églises ou déplacés d'un lieu vers une église. Et avec Louis de Bière, d'ailleurs, on trouve souvent les orgues dans les chœurs. Ce n'est pas toujours le meilleur endroit. Meilleur endroit pour l'entendre sonner. Donc, du point de vue du fighter d'orgue, l'instrument doit sonner à mi-hauteur, entre voûte et terre, sur une tribune ou un jubé. Situé à même les dalles de la nef ou du chœur, un orgue ne peut prendre toute son ampleur. Et effectivement, quand on entend le grand orgue de la cathédrale de Nantes, de Saint-Pierre-Saint-Paul, ou celui de Drapeaumont-Port, vous verrez que le son se divise mieux dans l'église ou dans la cathédrale. La tribune sur laquelle il a pris place est-elle trop élevée? Les sonorités viennent se briser contre les voûtes et se perdre. Pas plus, il ne s'accommode d'une tribune trop haute, pas plus le facteur ne peut utiliser un jubé ou une tribune trop étroite. L'orgue doit respirer librement. En façade, les tuyaux ne seront pas serrés côte à côte. Entre eux, l'air circulera. La logique doit présider à la répartition des tuyaux. Entre chaque clavier et chaque sommier, des plans sont aménagés en élévation. L'orgue à tuyaux est constitué de plusieurs volumes, hein, répartis. Alors, je vais vous expliquer un peu sur le plan technique ce que c'est qu'un orgue. Hein, répartis dans l'espace et reliés à la console qui est vraiment c'est l'élément qui dirige en fait l'orgue, hein, et qui est le tableau de commande de l'instrument où se trouvent les claviers, les registres, les tirasses, les accouplements. Je vais revenir sur ces terminologies. La hauteur est définie en pieds, hein, vous savez qu'un pied c'est 12 pouces et c'est 32,4 cm. Par exemple, vous avez des tuyaux qui font jusqu'à 32 pieds, c'est-à-dire 10,40 m. Donc sur des grands instruments. Les trois organes essentiels de l'orgue sont l'appareil sonore, composé des sommiers, qui sont chargés de canaliser l'air à l'aide de leur gorge pour les conduire aux notes et aux jeux désirés, et des tuyaux placés sur le sommier qui donnent les sons. Les claviers, donc vous trouvez sur des instruments 1, 2, 3, plusieurs claviers, suivant l'importance de l'orgue, et le système de transmission, qui est le système nerveux de l'orgue. La soufflerie, évidemment, et les canalisations qui conduisent l'air au sommier, ce qu'on appelle le système respiratoire de l'orgue. Alors, je vous montre ici, en fait, une image d'un orgue représenté avec ses anges, musiciens. C'est une image du XVe siècle qui provient du musée d'Anvers en Belgique. Alors, je vais continuer à vous passer quelques images pour faire une pause parce que je. Vous voyez aussi une tapisserie du début du XVIe, du musée de Cluny, que je vais passer. Ça, c'est une tapisserie de la Dame à licorne, donc début XVIe, on voit un instrument. Je vais revenir aussi. Alors, vous voyez aussi un instrument 17e qui provient de Hambourg. Hein, donc vous voyez la magnificence de cet instrument avec ses tuyaux, sa composition, son buffet. Voilà un autre orgue. Ça, c'est un projet d'orgue du 18e siècle qui a été établi pour la cathédrale de Strasbourg. Hein, par André Silbermann, donc ça c'est voilà un projet, on va revenir sur les projets. Je vous présente bien sûr mais la Béniel, vous connaissez bien sûr le grand orgue de la cathédrale de Nantes, hein, donc qui est sur un buffet. Hein. Je vais vous montrer, donc là c'est vous montrer aussi les décors de. Donc une cariatide qui soutient une tourelle latérale sur le grand orgue de la cathédrale. Vous verrez qu'il y a des orgues qui présentent des décorations différentes. Voici aussi, alors dans les églises, dans certaines églises, dans la cathédrale, mais aussi à dans la basilique Saint-Nicolas et à Notre-Dame-au-Port, on trouve des orgues de chœur qui sont des instruments d'accompagnement du grand orgue de tribune. Et puis, je vous présente également un orgue sur lequel on travaille actuellement, je reviens dessus, c'est le grand orgue de 40 jeux de tribune qui a été construit par Louis de Bière, qui est son chef-d'œuvre, donc qui a été construit entre 1888 et 1889. Également, la Béniel et puis certains d'entre vous l'ont découvert ce samedi, nous avons fait un réveil de l'orgue sur lequel il y a une restauration. C'est l'orgue de chœur de Saint-Clément. Et qui présente une particularité, c'est d'avoir des tuyaux peints. C'est une rareté un peu à Nantes. Et ces tuyaux peints sont des tuyaux à la mode anglo-saxonne, parce que Louis de Bière a sans doute fait un voyage en Angleterre et c'est donc fait peindre ces tuyaux. Donc, je reviens sur les explications techniques. C'est... le sommier d'abord, je vais vous parler du sommier qui est la pièce maîtresse de l'orgue. C'est le lieu de rencontre entre de l'air et du système de transmission. Hein. Le sommier est une caisse en fait destinée à recevoir l'air comprimé pour le distribuer dans les tuyaux. Verticalement, les gravures sont des cavités entre deux barrages qui reçoivent l'air venu de l'allée à l'intérieur du sommier et la transmet au tuyau au-dessus de la table, le registre et la chape. Donc, horizontalement, les registres ou les jeux hein, sont des larges planches. Je vais vous présenter les plans. Je vais peut-être vous présenter un sommier. Vous allez mieux comprendre. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est extrait d'un ouvrage de Jean Bachelet qui est très didactique, qui présente l'étape de construction d'un sommier. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Avec en général construit en chêne, puisque nous avons à Nantes plus particulièrement un ensemble d'orgues qui date plutôt du 19e siècle. Donc je reviens sur ce sommier. On parle de registre de jeu qui correspond à la série de tuyaux du même timbre qu'il commande. Les registres coulissent entre des faux registres qui leur servent de guide. Les registres sont disposés dans le sens de la longueur du sommier. Et perpendiculaire aux gravures et au-dessus de la table dont les trous fixes correspondent exactement à la chape. Hein, vous voyez, gravure, les rainures, les chapes, donc tout ça, vous avez ça sur le croquis. L'allée est une petite boîte au-dessus du sommier qui reçoit l'air depuis le réservoir et où il est mis en pression. Cette boîte contient des soupapes qui sont en relation à chaque touche du clavier. Il y a autant de soupapes que de gravures, dont de notes du clavier. La chape et la planche de bois fixées perce le trou en haut du sommier et sur laquelle sont posés les pieds des tuyaux. Lorsque le registre est ouvert, hein, tiré, comme on dit, les trous de chape de la règle mobile de la table communiquent avec une gravure. Si une note est abaissée au clavier, la soupape correspondante s'abaissera, l'air entrera dans la gravure et fera sonner le tuyau appartenant au jeu dont le registre est ouvert. Si plusieurs registres sont ouverts, plusieurs tuyaux parleront simultanément. Alors, je vais vous montrer, donc vous voyez hein, ce que je vous ai expliqué. Voilà, je continue sur toujours ces sommiers. Hein, vous voyez là. Ça, donc, quand bien sûr on restaure, on répare, on relève un orgue, on est amené à vérifier tout cela et vérifier le bon état de ces ensembles-là. Je vais aller un peu vite parce que c'est assez technique, vous avez compris. Vous avez compris que vous voyez l'allet, hein, vous voyez le système de ressort de soupape avec ce qu'on appelle les boursettes hein, et la tige faisant le jonc. Vous voyez, chaque élément est d'une délicatesse à chaque fois. Et vous savez qu'à Nantes, hein, pour ceux qui, après cette conférence, iront voir les orgues, et s'arrêteront derrière le système, verront que effectivement ce sont des petits éléments techniques, mais qui tiennent une grande durée dans le temps, puisque on a encore un siècle après ces éléments en bon état. Alors, voyez un peu la coupe sur un sommier, hein, donc avec l'allet, les ressorts, la gravure, donc, et bien sûr le son va remonter par ces tuyaux. Donc je passe au principe de la transmission mécanique. Hein, donc c'est la coupe sur un sommier. Vous voyez hein, comment chaque élément, tourillon, les vergettes, les petites tiges en bas qui vont jusqu'au. Jusqu'aux bourses, hein, ce qu'on appelle les boursettes. Hein. Vous voyez donc la complicité. Donc vous avez les tuyaux qui sont mis sur ce système de table. Donc là, vous avez. Vous avez ce qu'on appelle. Parce que les conseillers techniques en orgue vous parlent du système Barker. Donc vous avez ces systèmes de soupape et de lait hein, qui vont agir sur. Les soufflets. Hein. Donc le soufflet, l'air rentre et vous avez un système de lait direct qui vous envoie l'air vers les tuyaux. Là, pareil, vous avez donc un sommier auxiliaire avec l'air qui rentre par ces éléments-là avec ce système direct et le tuyau sont juste au-dessus. Là, ce qu'on appelle le sommier pneumatique Puget. Hein, donc vous avez l'air qui arrive ici par cette tubulure en plomb hein, et qui remonte et qui fait agir. Qui a un système de clapet qui vous permet d'envoyer l'air dans le tuyau. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces systèmes existent sur les nombreux orgues que j'ai rencontrés, ce que j'appelle les orgues historiques, qui sont des orgues construits à partir de 1860, essentiellement. Alors là, je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. C'est un peu, et puis après je reviendrai sur les éléments, c'est la coupe générale sur un instrument. Donc vous avez la console hein, avec les différents claviers. Ici vous avez trois claviers, hein, vous avez ce qu'on appelle le clavier du grand orgue, le clavier du positif et le clavier du récit. Les tuyaux du clavier du positif qui sont au dos, hein, donc avec tout le système, l'air qui passe ici hein, par le sommier, qui est envoyé par pression et qui est envoyé dans les différents sommiers du grand orgue, du Grécy, par les tuyaux avec le système de lait. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les claviers et le système de transmission mécanique. Hein. Le système de transmission mécanique est le système le plus ancien et le plus sûr. Les claviers du grand orgue, vous voyez, les claviers du grand orgue, font sonner les tuyaux au-dessus de l'organisme sur les sommiers du grand orgue. Hein, donc à chaque fois on a le clavier, on fait sonner sur le sommier du grand orgue. Alors les dispositions des sommiers peuvent être différentes. Hein. Vous voyez sur celui qu'on a vu de Saint-Clément, vous avez en fait deux sommiers séparés. Hein, donc l'un est à droite et l'un à gauche quand vous êtes dans le chœur. Donc chaque instrument a ses particularismes parce que le facteur d'orgue s'est adapté en fait à la configuration de l'église dans laquelle il installe l'orgue. Le clavier du grand orgue fait sonner, donc je vous ai dit. Le clavier du positif, c'est la même chose. Il est souvent accolé au banc de l'organiste. Il est prévu pour répondre au clavier du grand orgue. Sa composition des jeux tient compte de la composition des jeux du grand orgue. En fait, ce clavier peut comporter aussi quelques jeux solistes, exemple le chromorne. Le clavier de Russie fait sonner des tuyaux dans le sommier disposé dans la partie sommitale de l'instrument, la partie haute. Le clavier de Russie est entouré d'une caisse dans laquelle sont découpées des jalousies qui s'ouvrent et se ferment grâce à l'action d'une pédale dont dispose l'organiste à la console. C'est l'organiste qui commande tout. Il s'agit là de ce qu'on appelle d'un récit expressif. Certains grands instruments ont deux autres claviers, ceux de bombarde qui fait sonner des jeux d'ange, bombarde, trompette, glaireon, et ceux de l'écho qui font sonner un jeu de cornet. Je reviens sur le pédalier. Le pédalier est constitué de touches qui sont actionnées par les pieds de l'organiste. Les tuyaux de pédale font donner les notes les plus graves de l'instrument. Donc l'étendue du clavier, en général, il y a 56 touches sur un grand instrument. Ils vont du ut 1 au fa 3 pour 30 notes et du ut 1 au sol 3 pour 32 notes. Voilà un peu le. Alors, la transmission des claviers au sommier. Je vais peut-être passer parce que c'est très technique. Je vais vous montrer plutôt des images parce que je pense que je vais faire un projet un peu trop technique. Excusez-moi. Donc voilà également le système de pédalier. Donc vous avez ce qu'on appelle une console. Alors, Tombedo, c'est un peu la bible des instruments historiques. Les organistes ou les facteurs d'orgue. Vous avez donc là simplement un petit orgue assez simple. Alors, je continue. Là, je vous montre également les systèmes de tir en registre. Donc, vous avez le sommier, donc un axe à chaque fois pilote qui fait agir les registres coulissants. Voilà ce qu'on appelle l'accouplement des claviers, qui se fait par des petites tiges d'acier filetées en laiton, qui permet d'accoupler les claviers. Et puis, une autre. Là, vous avez un peu, ce qu'on appelle l'hydrole. C'est le premier instrument qui a été créé, le premier orgue qui a été créé, je crois que c'est au 3e siècle, je vous dirais, Gabiniel, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, je crois. C'est oui, donc. Par un grec, oui. Donc, alors, je. D'accord. Donc, je vais vous passer aussi le système de soufflerie. Vous savez que le système de soufflerie est un système assez complexe. L'hydrole date du 3e siècle avant Jésus-Christ et c'était Celsibios, c'est ça qui l'a créé en Alexandrie. Le poids de l'eau était utilisé pour comprimer l'air dans le sommier de cet instrument. L'hydrole comportait en fait une soufflerie hydraulique, pas comme avant, un sommier à remis des registres dans le clavier et plusieurs rangées de tuyaux. C'était cet instrument. C'est le premier instrument qu'on trouve, vous voyez, trois siècles. L'hydrole sera un instrument qui existera jusqu'au XIIe siècle. Et il sera remplacé par l'orgue pneumatique à partir du XIIe siècle. Je vais vous montrer aussi extrait des ouvrages de Dombedos, de Sel, le système original de soufflet, de soufflerie de l'orgue. Je vais vous montrer plusieurs exemplaires. Vous voyez donc, en fonction de l'espace à disposition, vous voyez, on a un soufflet qui peut se. La soufflerie peut se mettre par différents paliers en hauteur. Voilà. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde un peu plus les orgues, on installe souvent un ventilateur qui va réguler le système de soufflerie de l'orgue. vous montre. Alors, initialement, effectivement, vous avez compris que c'est un instrument. Il y avait l'organiste, mais il y avait aussi des assistants qui aidaient au système de soufflerie. Vous voyez donc. Alors, vous dire quand même que aujourd'hui, en général, les orgues qu'on rencontre, le système de soufflerie, c'est donc vous avez vu des paliers en bois, c'est comme un soufflet, et c'est de la peau d'agneau qui se trouve donc ici. Et c'est une peau d'agneau d'un type particulier. Effectivement, quand on est amené à restaurer un orgue, à changer ses posseries, ce qu'on appelle des posseries, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà pour la soufflerie.